bonsoir. La fraude constatée dans l'importation du ciment gris en RDC porte un préjudice au climat des affaires et à l'essor de l'économie du pays, d'après le ministre de l'Économie. Pour combattre cette fraude, le ministre Modeste Bahati vient de signer un arrêté qui conditionne l'importation de ce produit par la détention d'un contrat signé entre l'opérateur économique et le ministère. Quelle analyse faire de cette décision? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 19 août 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Albert Fabrice Opoula, député national de l'opposition et leader du parti Renaissance du Congo, voilà, réconcile. Honorable Opoula, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Israël Moutoala, journaliste et analyste économique et politique. Bonsoir, Israël.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Désormais, le commerce d'importation du ciment gris en RDC est conditionné par la détention d'un contrat programme dûment signé entre l'opérateur économique et le ministère. Et le ministère de l'économie nationale. Ainsi, on a décidé depuis le 17 août dernier, le ministre de l'économie, Modeste Bahati. On l'écoute au micro d'Innocent Olinga.
Il s'observe une fraude massive du ciment qui entre dans le pays sans payer les droits dus à l'État. Après enquête, nous avons remarqué que certaines sociétés se livrent à la fraude intellectuelle. Elles prétendent importer du ciment destiné aux chantiers exonérés en vertu du code des investissements ou de certaines conventions particulières. Mais en réalité, au lieu de se contenter d'importer le ciment qui est destiné aux 10 chantiers, ils en ajoutent et en grande quantité qui est mis en consommation sans pour autant payer le fisc. On a remarqué également, toujours dans ce secteur du ciment, qu'il y en a qui usaient du trafic d'influence en faisant croire que ce qui était importé comme ciment était destiné aux 5 chantiers. Ceci nous a amené à prendre des mesures draconiennes. Nous avons convenu de fixer un quota de manière à nous permettre de contrôler.
C'était là le ministre Modeste Bahati, ministre de l'économie nationale. Monsieur le ministre, pourquoi avoir pris cette décision?
Oui, comme vous le savez, à notre avènement au ministère de l'économie nationale, nous avons tenu à nous assurer que les opérations commerciales se déroulent en respectant les lois et règlements de la République démocratique du Congo. Nous voudrions également veiller constamment aux objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire promouvoir la production, surtout nationale, mais également s'assurer que les prix baissent autant que faire se peut pour soulager les consommateurs qui sont principalement la population et les entreprises. Troisièmement, il fallait s'assurer qu'il n'y en a pas qui profitent de certaines situations pour justement apporter une certaine distorsion à l'économie nationale. Et c'est après enquête que nous avions remarqué que le ciment, qui est une composante essentielle parmi les matériaux de construction et qui constitue effectivement un élément essentiel du produit intérieur brut, donc de la richesse nationale, eh bien, nous avons constaté que les entreprises qui produisent du ciment étaient constamment mises en difficulté du fait des importations non contrôlées. Et après,
alors, vous parlez des entreprises locales, monsieur le ministre?
D'abord, les entreprises locales qui produisent du ciment, comme la CILU, la cimenterie de Lukala, elle était mise en place par les importations frauduleuses. Et donc, nous, il nous revient de réguler l'économie en veillant à la protection de l'industrie locale, mais également en veillant à ce que le trésor public puisse engranger des revenus provenant justement des activités économiques.
Alors, monsieur le ministre, vous parlez d'un contrat programme signé entre l'opérateur économique intéressé par l'activité et le ministère de l'économie nationale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par un contrat programme?
Le contrat programme, c'est en fait un engagement qui lie deux parties. L'importateur ou vendeur de ciment et le gouvernement, pour que chacun, en ce qui le concerne, respecte ses engagements. Les engagements de l'importateur, c'est d'abord de respecter les lois et règlements, notamment en termes de fiscalité. Deuxièmement, en veillant à ce que l'approvisionnement sur le marché se fasse de manière régulière pour éviter des ruptures de stock. Parce que, comme vous le savez, il y en a qui, agissant sur le levier des stocks, provoquent une rareté, et quand il y a rareté, il y a également hausse des prix. Et donc, tenant compte d'abord de la production nationale, nous nous sommes dit le quota qu'on peut autoriser au vu des besoins du marché se situe à peu près 1 200 000 tonnes de ciment. Et donc, comme la production nationale n'offre que quelque chose comme 450 000 tonnes, eh bien, les autorisations ou le contrat programme ne portent que sur le surplus, à savoir quelque chose comme 750 000 tonnes. Et nous veillons à ce que, justement, ceux qui avaient comme dumping et comme fraude massive, surtout avec les 5 chantiers abusivement utilisés par certains importateurs qui se disaient être fournisseurs des 5 chantiers pour bénéficier des exonérations lors des importations. Nous devrions y veiller et c'est ainsi que nous avons mené des enquêtes. Ça, c'est pour ce qui est des devoirs qui incombent aux importateurs. Mais du côté de l'État aussi, nous avons des devoirs qui sont nos devoirs habituels, c'est-à-dire faire de sorte que les entreprises puissent travailler sans tracasserie administrative, sans qu'il y ait des taxes redondantes ou illégales, et faire de sorte que toute la protection soit assurée aux entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires.
Alors, monsieur le ministre, en prenant cette décision, est-ce que l'État cherche à réduire le nombre des importateurs en ciment gris? Faut-il craindre la hausse du prix du ciment?
On voudrait s'assurer d'un minimum pour le marché. C'est-à-dire que les autres qui pourraient s'ajouter, ils doivent se signaler. Parce que, effectivement, c'est quand les gens prennent des initiatives isolées que finalement, il y en a qui arrivent à échapper au contrôle au niveau de la douane et au niveau des autres services publics de l'État. C'est-à-dire que pour le moment, et en attendant que nous puissions maîtriser la production nationale, il n'y a que les entreprises qui ont signé le contrat programme qui peuvent importer du ciment gris. Et là, tous nos services sont déjà informés quant à ce. Il y a eu, je crois, plusieurs demandes et nous avons exiger bien sûr qu'on nous prouve que réellement ces entreprises-là on détienne tous les documents nécessaires, notamment les RCCM, l'identification nationale et des entrepôts, ainsi que les véhicules et les transports.
Merci, monsieur le ministre.
Et nous avons arrêté une liste d'à peu près une dizaine d'entreprises qui sont donc autorisées à importer du ciment gris pour alimenter le marché local.
Alors, on va prendre pour vous, monsieur le ministre, cette réaction qui nous vient de Kananga.
Mavi Kisambika, à Kananga, dans la province du Kasaï central. Les cas de fraude sont depuis des temps signalés dans tous les domaines de la vie quotidienne des Congolais. Et ça, tout le monde le sait. Parfois, si l'on va plus loin, l'on trouvera que ce ne seront pas seulement les opérateurs économiques qui en sont fauteurs ou auteurs, mais aussi les autorités publiques y sont également complices. Cela étant, est-ce que monsieur le ministre pense-t-il qu'à travers la condition de détention de ces contrats, celle qu'il estime être garantissante, suffira à mettre fin à cette situation de fraude qui a déjà franchi tous les niveaux décisionnels, du fait que même les autorités publiques chargées ou non au service de la douane en sont collaboratrices?
Comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, l'auditeur s'inquiète ou il émet des inquiétudes quant à l'implication des autorités dans la fraude ou dans le commerce du ciment gris. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, les opérateurs, disons les autorités, si elles veulent exercer du commerce, il y a des lois qui imposent des restrictions au commerce en ce qui concerne les autorités publiques. Mais quand cela ne tienne, nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que le commerce se déroule normalement. C'est-à-dire que si quelqu'un est associé ou est dans une entreprise et qu'il exerce aussi le commerce du ciment, eh bien, il doit se conformer aux lois et règlements de la République. Si réellement la loi l'autorise à poser les actes commerciaux, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui ne sont pas autorisés à poser des actes commerciaux. Mais s'ils sont autorisés, ils doivent payer comme tout le monde, sans exception, sans la moindre pression.
Merci, monsieur le ministre.
Les droits revenant à l'État sont payés et que toutes les lois économiques, y compris la protection de la concurrence loyale, et éviter qu'on soit dans une position dominante, si tout cela est observé, il n'y a pas de problème. Il n'est pas dit que...
Merci, monsieur le ministre.
...autorité politique, par exemple...
Monsieur le ministre, je vous redonne la parole tout à l'heure. Merci, on vous a compris, monsieur le ministre, on vous redonne la parole tout à l'heure. Albert Fabrice Opoela, député national de l'opposition et leader du Parti pour la Renaissance du Congo, Récon en sigle. Comment vous analysez cette décision du ministre de l'Économie nationale?
Merci beaucoup, madame. Je tiens premièrement à saluer tous les auditeurs de la Grande Radio de la Paix qui nous suivent à cet instant, mais aussi mes co-débatteurs, en commençant par monsieur le ministre Bahati Lukwebo, un ancien collègue élu, mais aussi monsieur le
Israël. Israël Moutala.
Voilà, un analyste politique Israël Moutala. Nous avons bien suivi ce qu'a dit monsieur le ministre Bahati. Il est fort regrettable qu'une telle mesure arrive si tardivement au moment où le mal est suffisamment fait. Il y a longtemps que la sonnette d'alarme avait retenti pour bousculer le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposaient. Si on dit gouverner, c'est prévoir, et lorsqu'on analyse, encore on lit, il ne suffit pas seulement d'analyser, que le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants. Au niveau de la représentation nationale, une motion avait été soulevée en son temps, une commission avait même été mise sur pied pour parler justement de cette problématique de la commercialisation du ciment au niveau de l'Assemblée nationale. Et les conclusions avaient été déposées et envoyées à qui de droit. Et parmi ces conclusions, justement, il fallait qu'on puisse réglementer ces problèmes de la commercialisation du ciment. Madame, Comment pouvez-vous imaginer dans un pays qui se respecte? Nous avons des entreprises nationales, dont une dans laquelle l'État congolais a pratiquement les 100% d'action. Je parle de la CINAT, la cimenterie nationale installée à Kimpese. Je salue en passant tous les travailleurs de cette cimenterie aujourd'hui clochardisés parce qu'ils sont impayés depuis 80 mois. Aujourd'hui, cette entreprise est à l'abandon. Cette entreprise, d'après les programmes qui avaient été faits, ne demandait qu'un peu d'argent pour sa relance. Le mal est tellement profond aujourd'hui que cela a été revu à la hausse. Ça demande juste 15 millions et demi pour un petit programme. Alors, le gouvernement se permet pratiquement de tuer ces domaines commerciaux, la commercialisation du ciment, en exonérant totalement les importateurs ou l'importation de ciment au grand détriment de ces entreprises qui nourrissent plusieurs milliers de familles congolaises. Voilà où le gouvernement a vraiment péché. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Nous aimerions qu'aujourd'hui, que cette mesure est prise. Nous regrettons que ce soit vraiment tardivement, mais que cette mesure soit vraiment de stricte application, mais qu'aussi on puisse être...
Vous pensez que peut combattre la fraude sur les importations?
Nous avons bien peur, surtout que nous connaissons les pratiques qui ont élu domicile, justement, non seulement dans ce secteur, mais avec les expatriés dans tous les domaines. Nous, les ministres, j'étais très content de suivre ce qu'a dit vers la fin, monsieur le ministre. Il faut être autorisé à porter certains actes commerciaux, certains expatriés qui exercent le petit commerce. Or, la loi est vraiment stricte là-dessus. Le petit commerce, c'est exclusivement réservé aux nationaux. Mais combien ne voyons-nous pas des supermarchés pullulés à travers le pays, même dans les quartiers les plus reculés? Mais les Congolais sont malheureux chez eux, ils vont vivre de quoi? Regardez les quelques Congolais que nous avons qui peuvent évoluer dans ces domaines, sont en train de faire faillite parce que tout est en train d'être envahi avec les supermarchés. Juste, mais restons dans les domaines du ciment. Nous avons la CINAT et Silou qui ont fait de ces pays, qui ont contribué à l'émergence de ces pays. Lorsqu'on a construit, en tout cas si mes souvenirs sont bons, on a construit, nous sommes renseignés, on a construit toutes les grandes infrastructures que nous avons dans ces pays, c'est avec les ciments produits par nos cimenteries nationales. On n'avait donc pas besoin de libéraliser. Et s'il fallait libéraliser justement au nom de la concurrence, il faut ne pas faire de poids, de mesures. Encore que nous sommes vraiment un pays atypique, madame. Nous sommes de ces rares pays qui privilégient les expatriés au grand détriment des non-nationaux. Nous devons, aussi le gouvernement devait prendre des mesures d'apaisement ou d'allègement vis-à-vis de nos entreprises pour les aider à faire face à cette concurrence déloyale. On exonère pour les importations, on devait aussi exonérer pour la CINAT et pour la CILU. Sinon, mettre toutes ces entreprises ou tous ces opérateurs à un pied d'égalité avec nos entreprises que nous avons. Donc cette mesure, quand bien même elle peut avoir été signée, nous aimerions que monsieur le ministre et ses collaborateurs fassent vraiment la différence et que s'il y ait un réel contingentement en limitant juste l'importation de ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les besoins locaux. Et nous devons nous battre pour réveiller la cimenterie nationale qui se meurt aujourd'hui avec des travailleurs qui sont clochardisés, comme nous l'avons dit. Il suffit juste d'un petit... Nous l'avons dit autour des préparations ou même des festivités de 55 ans de dépendance de notre pays, lorsque tous les gouvernements ou tous les officiers du pays s'étaient transportés au Congo central. Nous avons dit, mais nous aurions vraiment voulu qu'il y ait un coup de pouce à la cimenterie nationale, parce que, madame, beaucoup d'investisseurs étaient à la porte pour investir dans ce domaine, pour récupérer la cimenterie nationale. Nous parlons par exemple de la Farge, mais il y a eu un problème, nous ne devons pas nous cacher, un problème de pot de vin, lorsque tel ou tel autre responsable ne se retrouve pas le contrat. Aujourd'hui, Nova Simangol est en train d'attendre au portillon. Nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'aujourd'hui le dossier de la cimenterie nationale ne peut pas évoluer alors que c'est cette entreprise, dans cette entreprise l'État a pratiquement les 100% d'action.
Merci l'honorable Pouela Israël Moutala, journaliste, analyste économique et politique. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette décision du ministre Bahati?
Bon, ma lecture à moi, c'est que d'abord, c'est un aveu de faiblesse de l'administration. mais je ne blâme pas particulièrement le ministre. Je pense que n'importe quel ministre qui hérite d'une administration comme la nôtre, qui est faible, on ne peut pas justement bien gouverner un pays quand l'administration elle-même n'est pas suffisamment forte, n'est pas suffisamment efficace. Et la deuxième chose, c'est que moi, je pars d'abord, j'aimerais que... c'est que la chose qui m'a un peu surpris, c'est le besoin en termes de ciment tel qu'il a été quantifié par Monsieur le ministre. Selon mes recherches, selon des documents que j'ai lus, notamment du COPIAP, les besoins en termes de ciment s'élèvent à peu près à entre 3 millions et 5 millions de tonnes par an pour toute la République. Et donc, nous étions en sous-capacité. La SINAT, la SILU, la principale usine de cimenterie, n'en produisait qu'à peine moins de 500 000. Donc il y avait un gap important. Donc l'offre de ciment nationale ne correspondait pas à la demande nationale de ciment. Donc il faut d'abord que je sois en train de restituer un peu pourquoi on est arrivé à l'importation. Comme on n'avait pas de quoi couvrir le besoin en ciment sur le plan local, on a décidé d'ouvrir justement, d'importer, des recours à l'importation. Et donc, mais pour recourir à l'importation, il a fallu qu'on exonère les importateurs. Parce qu'en grévant toutes les taxes que payent tous les importateurs, il arrivait que le produit de l'importation n'était pas compétitif. Il allait le sac de ciment de 50 kilos se trouver entre 40 ou 50. Et donc, d'où la mesure d'exonérer les importateurs. Je crois que c'était une mesure qui avait été prise par l'ancien ministre de l'économie, M. Fouta. Voilà d'abord le problème. Et à cette époque-là, je me rappelle que les dirigeants de la SILU étaient allés voir l'État pour dire que, à ce prix-là, nous, on va fermer, on aura des difficultés. Et SILU, à son tour, avait bénéficié d'une exonération sur le gazoil, qui est un produit qui est important, qui entre justement dans la fabrication du ciment, qui est fait à base de calcaire, de gypse, voilà. Mais les plus grandes charges pour nos amis de SILU, c'était le gazoil. Mais sur le gazoil, SILU aussi avait bénéficié d'une exonération pour que le prix de SILU et celui des importateurs s'équivalent à peu près. Voilà les équilibres qui avaient été trouvés, et on a plus ou moins approvisionné le marché quinois. Parce que le sac de ciment, rappelez-vous, à une époque, il a coûté entre 40 et 50 dollars dans cette capitale. Mmh. C'était dû aussi au fait que la cimenterie de Lukala n'a pas investi suffisamment dans son outil de production. Et à un moment, il avait connu le problème d'avarie sur les usines. Il y avait une intempérie. Et puis voilà, il y avait certaines de ces machines étaient avariées. Il y avait la production s'était arrêtée. Et donc, il y a un problème d'investissement qui n'a pas été fait. Ça veut dire qu'il y avait un projet à Silou qui était de porter de 450 000 tonnes à peu près à 1 million de tonnes ou à 2 millions de tonnes l'an. Mais tout ce projet nécessitait des investissements qui n'ont pas suivi. Donc nous sommes en déficit en termes de besoins de produits de ciment. Et donc la mesure la plus judicieuse était justement de recourir à l'importation le temps que la production locale puisse combler le gap. Voilà un peu le problème. Mais quand on fait un état des lieux de nos propres cimenteries, il y a un problème justement, un problème de vision stratégique par rapport au ministère du portefeuille pour les cimenteries ou pour les entreprises publiques où l'État est l'actionnaire majoritaire ou l'actionnaire unique. Et donc, on parle de la cimenterie nationale de Kimpasse qui a une plus grande capacité que celle de Silou, mais justement, même là, l'État a tergiversé entre la Farge à un moment, entre les Angolais et entre le Portugal, entre plusieurs justement investisseurs qui s'est bousculé au portillon. Donc là, il manque une vision stratégique de l'État par rapport à ces outils qui sont importants pour notre économie. Il en est de même de tergiversation avec Cipor, la cimenterie de la province orientale, un cafouillage terrible, donc 10 ans après, que du flou, et même, on ne sait pas, donc c'est un projet qui a été traité avec la négligence dans sa conception et dans son exécution. Et donc, même la cimenterie, certaines cimenteries au Katanga, celle de la Gécamine, voilà, je parle de CCC, donc il y a beaucoup de cimenteries, la cimenterie de Louboudi, la cimenterie de Interlac, bref, il y a plusieurs cimenteries qui n'ont pas encore atteint leur pleine capacité de production et qui n'ont pas été leur outil de production n'a pas été renouvelé. Donc il manque une absence stratégique de vision. Et donc là on a vu maintenant que le déficit en produits en ciment va se poursuivre d'ici encore 2, 3, 4 ans. On n'aura pas encore les moyens justement de satisfaire localement nos propres besoins. Et il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent avec de nouveaux investissements, notamment avec les Sud-Africains, avec je crois CPPCC. CPP, je crois. Et donc, il y a deux ou trois nouvelles cimenteries qui vont voir le jour dans le Bas-Congo. Mais il faut attendre deux ans à peu près pour espérer combler le gap et mettre fin aux importations. Mais maintenant, là, il faudrait absolument les limiter et les encadrer parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Et donc, moi, aujourd'hui...
Donc, cette mesure de ministre pourrait limiter, comme vous dites, toutes les dérives qu'il y a eu.
Non, mais moi, encore une fois, c'est l'outil. Le ministre, c'est pas un magicien. C'est, le ministre, c'est, il donne l'impulsion. Mais il doit y avoir une administration, justement. Parce que même la première mesure qui avait donné, qui avait demandé à ce qu'on puisse importer du ciment, c'était pas n'importe qui. Ça veut dire que maintenant, les gens se présentent devant vous, vous dites que non, c'est pour les 5 chantiers. Il doit avoir des documents. Quel chantier? Il faut vérifier. Mais ce travail-là, si on le fait avec négligence, peu importe. Et donc, ici, il y a des gens qui n'avaient pas, qui justement, qui importait dans 4, 5, de 5 chantiers. On m'a parlé du chantier, de l'ancien chantier. Ça j'ai ouï dire que l'ancien chantier Rakhine, par exemple, que quand ça a commencé, les gens avaient importé plus de ciment que ne demandait ce chantier-là. Et donc le surplus est parti sûrement sur le marché local. Alors que c'est un détournement en principe du contrat. Et donc il y a de l'ordre à mettre de ce côté-là.
Alors, puisque vous avez évoqué le cas de Silou et Silinat, nous allons nous rendre au Congo central pour faire justement l'état des lieux de ces deux cimenteries de cette province. Il s'agit de la cimenterie de Lukala Silou et de la cimenterie nationale Sénat, toutes deux confrontées à des difficultés. Le responsable en a fait part au Premier ministre en visite sur place la semaine dernière. Guy Roger Nyampala pour les détails.
Pour commencer, avec la cimenterie de Lukala Silou, sa production actuelle est estimée à près de 400 tonnes par jour. Elle emploie des milliers de travailleurs directs et indirects. Le jeudi dernier, à Lukala, cette entreprise, à travers son représentant, a posé au Premier ministre un souci de ce qu'elle considère comme une concurrence déloyale en ce qui concerne le ciment importé qui entre en RDC par la frontière de Loufou. Selon le représentant de la Silou, le prix de vente de ce ciment importé a un impact négatif sur son entreprise. Parlons de la deuxième cimenterie au Congo central, c'est la Sinat, cimenterie nationale. Elle ne fonctionne plus depuis 2008. L'entreprise est en faillite. Selon son directeur, cette société n'est fait qu'accumuler des dettes. Il a été amorcé le processus de sa relance, mais ce processus tarde à se concrétiser et le Premier ministre l'a reconnu lors de son intervention à Lukala. Matata Ponyo a précisé que c'était l'un des buts de sa visite au Congo central sur instruction, a-t-il dit, du président de la République. Cette entreprise est confrontée aujourd'hui à un problème d'arriéré des salaires de plusieurs années pour ses agents. De retour de la cité de Lukala, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Monsieur le ministre Bahati Lukwebo, vous venez de suivre l'état des lieux que Guy Roger vient de nous faire sur les deux cimenteries de la province du Congo central, Silou et Sinat. Qu'est-ce qui empêche la relance de ces deux entreprises?
Oui, d'abord, je remercie tous les intervenants, mon collègue l'honorable Pouela, l'analyste Moutera et Guy Roger. Pour revenir à votre question, pour les deux entreprises, d'abord, on ne peut pas les mettre toutes sur le même pied d'égalité parce que l'une est à l'arrêt, l'autre est en fonctionnement. Et pour celle qui est en fonctionnement, je dois vous dire que aussitôt que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons écouté les doléances qui ont été soumises au gouvernement et qui portait essentiellement sur les taxes, mais aussi la fraude. Du côté des taxes, nous avons pu obtenir que l'on puisse baisser les taxes, le niveau des taxes, et en supprimer certaines. Deuxièmement, il fallait que la taxe qui était appliquée aux industries locales, mais qui ne l'était pas pour les importations, que cette taxe-là soit également annulée et que elle soit, si elle doit être maintenue, alors qu'elle soit étendue également au ciment importé. Pour ce qui est de la partie fraude, nous y reviendrons. Guy Roger l'a dit, il y a des importations par Loufou, Loufou, c'est devenu un mouroir pour notre économie nationale, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de containers, de marchandises, de camions, citernes qui passent par là. Ce n'est plus un commerce transfrontalier, c'est devenu une véritable institution de fraude. Et donc, nous, à ce niveau-là, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Premier ministre, à qui nous avons rendu compte et qui a reçu les instructions claires du chef de l'État pour mettre fin à la fraude par la voie de Loufou, se propose justement d'effectuer une visite ce vendredi à Loufou pour se rendre compte de ce qui se passe là exactement. Parce que ce qui se passe à Loufou est dramatique pour l'économie nationale. Non seulement que les marchandises ne payent pas les droits des douanes, mais également il y a le phénomène du rabattement de la valeur, donc la dévaluation de la monnaie angolaise, qui fait que ceux qui opèrent là-bas, ils bénéficient d'abord de la marge sur la marchandise, mais également ils bénéficient du taux de change, du fait que chez nous, les transactions se font en dollars américains, et que chez eux, c'est la monnaie nationale qui malheureusement a perdu près de la moitié de sa valeur à cause de la baisse du baril de pétrole. Et donc, lorsqu'ils vendent en dollars chez nous, ils ont d'abord la marge sur la marchandise, mais ils ont également la rente provenant du taux de change lorsqu'ils échangent en monnaie nationale là-bas. C'est ce qui fait qu'il est grand temps, effectivement, que des mesures draconiennes et sévères soient prises à ce niveau-là. Donc c'était là le deux doléances de la cimenterie de Lukala, donc les taxes et la fraude. Maintenant, pour revenir à la CIMAT, effectivement, il est regrettable que la CIMAT soit restée autant d'années à l'arrêt, comme l'a si bien dit l'honorable Puella, et ça a été répété par l'analyste Moutela. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont intéressés à apporter des fonds, des capitaux frais dans la CIMAT, mais bon, et là j'assume, du côté du gouvernement, je crois que on a tardé à prendre la décision. Et la dernière option était qu'on puisse finalement confier cette cimenterie à Cimangola, mais qui a posé beaucoup de conditions, y compris même des conditions touchant au passif social. Or, nous ne pouvons pas liquider une entreprise sans tenir compte des avantages du personnel et de leurs droits. Et donc, à ce niveau-là, la ministre du portefeuille qui pilote les négociations, je crois que il lui a été demandé de reprendre contact avec Cimangola, et si Cimangola continue à traîner les pieds, et qu'on cherche quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même un secteur porteur. Si quelqu'un vient investir dans la CIMAT, il est évident qu'avec les allègements...
Merci, Monsieur le Ministre. On vous garde encore dans ce débat. Honorable Pelé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud Kivu.
Bénédiction Mingo de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je trouve vraiment salutaire cette décision du ministre dans la mesure où la fraude est devenue une monnaie courante dans ce secteur. Mais nos inquiétudes planent autour des mesures d'application de cet arrêté si important pour l'émergence de notre économie.
Alors cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous, hein, parce que vous avez pris la parole dans le premier tour de table.
Effectivement, et c'est fondé parce que, vous savez, nous connaissons notre pays et nous connaissons également les pratiques. Et M. Israël a à le dire, étant donné la maladie dont souffre l'administration de notre pays. Je salue aussi la sincérité. Il est vraiment rare dans notre pays de rencontrer des ministres qui sont sincères. Lorsqu'il dit, nous assumons qu'effectivement il y a eu un retard, le mal est
tellement profond. On aurait dû prendre ces différentes mesures depuis très très longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais aujourd'hui, il faut être vraiment rigoureux dans cette mesure. Et nous, c'est vraiment les cris de cœur de toute une grande population, de la population, c'est pas seulement du Congo central, parce que la cimenterie nationale emploie plusieurs compatriotes de tous bords. Et c'est plusieurs milliers de familles. Aujourd'hui, il y a des divorces, il y a la non-scolarisation des enfants, et c'est l'économie qui est en train de souffrir de cela. Il faut qu'on réveille et qu'on privilégie la production locale. Nous, nous saluons toujours comment en son temps, M. Mobutu, même si on jette trop de pierres, mais quand même, lorsqu'ils ont eu à implanter ces entreprises pour la production locale, il y avait aussi des offres extérieures, mais on s'est dit, il faut créer de l'emploi. Et lorsque on privilégie les opérateurs étrangers, on crée la production ailleurs. Et ces entreprises qui viennent dans le cadre des 5 chantiers ou autres programmes exonérés. Mais ce n'est pas gratuit. On va créer la production dans d'autres pays et chez d'autres en privant. C'est quoi ça pour un père qui préfère affamer ses propres enfants pour aller nourrir les enfants des autres? Et il faut, pour prendre certaines de ces mesures-là, mettre tout sur la table. Parce que le monsieur l'analyste a eu à le dire aussi, il faut une vision stratégique. Parce que il n'y a plus un seul domaine qui soit vraiment qui peut avancer ou qu'on peut aborder presque en vase clos. Tout se lie, c'est un cycle. Vous êtes dans le domaine du ciment, mais vous voyez que vous êtes aussi dans le domaine des hydrocarbures, parce que il y a les combustibles qu'il faut utiliser, et partout dans le domaine social, il faut tenir compte de tout cela. Et c'est un cri de cœur, un cri de cœur que je viens exprimer ici au nom de tous les travailleurs de ces différentes sociétés. Il faut qu'on repense. Mais aussi, j'aimerais rencontrer monsieur le ministre lorsqu'ils disent que Loufou risque de devenir pratiquement une pierre d'achoppement pour les commerces. Mais tout cela, c'est aussi, entre autres, la conséquence des mesures non incitatives, des mesures même prohibitives pratiquées au niveau des ports, des Matadi, des ports de Boma et de Kasumbalesa un peu partout. Nous avons les taxes les plus élevées ou les plus insupportables. Je pense que il y a lieu, c'est même parmi les principes économiques, il faut, pour produire, il faut inciter, pour créer le flux, il faut revoir à la baisse, de sorte que le flux va créer des richesses. Et c'est tout ce que demande même la plupart de nos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays. Nous pensons que pour mettre une taxe...
Donc vous pensez qu'il y a trop de taxes inutiles?
Non, il y a des taxes qui sont utiles, mais c'est le montant qui est exagéré. C'est le montant, c'est prohibitif. Pourtant, on peut revoir à la baisse. Vous savez, par exemple, lorsqu'on demanderait à tout Congolais, par exemple, de payer pour la douane, juste prenons pour une petite voiture qu'on achète à 1000 euros. Non, la douane, c'est 500. Vous verrez que plusieurs vont acheter des voitures. Au lieu maintenant qu'il n'y ait que deux personnes qui vont acheter deux voitures pour payer 1500 euros, vous verrez, il y aura 20 qui vont acheter. Et lorsqu'ils vont payer 500, vous faites la valeur, vous verrez que ça va inciter les gens. Merci. Et même pour revenir sur le domaine de... des ciments qui nous intéresse ici, il est important, il est impérieux. Madame la ministre du portefeuille, j'espère qu'elle nous suit, qu'on mette toutes les chances de notre côté pour voir cette cimenterie, parce qu'il y a aujourd'hui le patrimoine de la Sénat est spolié. Même le terrain est en train d'être vendu au profit de certaines autorités provinciales. Et cela n'est pas bon, c'est le patrimoine
national. Merci, honorable Israël Moutal. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui vient de Kisangani.
Jeff Youssouf Yuma, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Concernant l'arrêté que vient de signer le ministre national de l'économie, moi je pense que cet arrêté-là n'a pas vraiment d'impact purement économique, parce que ça va enclaver encore les provinces qui n'ont pas de cimenterie, telles que la province de la Tchopo, la province du Maniema et tant d'autres. À un moment donné, le gouvernement de notre pays avait jugé bon de promouvoir l'entrée de ciment dans les pays. C'est à ce moment-là que le gouvernement devait mettre une structure en place pour éviter qu'il puisse avoir des fraudes massives.
Réaction Israël.
Oui, je comprends l'inquiétude de mon compatriote, mais je dis ici, il ne s'agit pas d'une interdiction d'importation. Il s'agit de ce qu'on appelle en économie un contingentement. Ça veut dire que on calcule le gap entre l'offre et la demande de ciment. Et on autorise à ce que n'entre dans le pays que la portion que l'écart entre l'offre et la demande. Et donc, si je pense que le ministre ne veut que mettre de l'ordre, parce qu'il y a des gens qui ont abusé, qui ont bénéficié des exonérations, ça constituait des manques à gagner pour les trésors publics parce qu'on ne paye pas l'impôt et tout ça. Mais le ministre doit veiller à ce que l'équilibre qui est constaté aujourd'hui soit maintenu en termes d'approvisionnement et en termes de prix. Donc on a fait quand même assez 2 ans ou plus d'ailleurs avec un ciment stable, avec des dépôts bien achalandés en ciment. Mais la question la plus importante, c'est que dans toutes les provinces, toutes d'ailleurs, il y a une possibilité d'avoir des cimenteries. Mais ce n'est pas le plus important. Mais vous voyez que par exemple au Bas-Congo, parce qu'on a tergiversé avec la Silou, parce qu'on a tergiversé avec Sinat, il y a 2 nouvelles cimenteries qui vont entrer en production, une l'année prochaine et une autre l'année suivante, je crois. Ils vont au Bas-Congo, pourquoi? Parce que le Bas-Congo, il y a l'énergie. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas, dans les prévisions de besoin en ciment du pays, les autres cimentiers, notamment mondiaux, des leaders mondiaux, comme les Sud-Africains, je crois PPC, sont venus aussi pour aussi se greffer sur le marché d'Inga. Parce que quand on va construire le Inga 3 et Inga 4, on aura besoin de beaucoup de ciment. Et donc, ces gens là-bas sont déjà venus en termes d'intelligence stratégique pour se greffer au marché d'Inga, pas seulement au marché domestique ou bien de marché de Congolais, mais c'est pour se greffer à un grand projet. Et donc, si cette vision on l'avait en amont, on aurait fait de ciment justement un outil déjà pour approvisionner Inga. Et donc, j'espère en tout cas qu'on va vite clarifier la situation de la SINAT, parce que plus si on ne liquide pas cette société là-bas, les dettes sociales s'accumulent et on sera dans l'impossibilité de relancer la SINAT parce qu'on la mettra en difficulté, parce que hyper endettée.
Alors, quelle chance il faut donner à cette décision du ministre?
Bon, moi, la décision, elle est bonne, mais le problème, c'est pas le ministre qui applique les décisions. Il s'appuie sur une infrastructure qu'on appelle administration. Or, moi, je connais les faiblesses de notre administration, que ce soit la douane, que ce soit le secrétariat général à l'économie et toutes les inspections générales à l'économie.
Difficile d'appliquer ces décisions.
Ça sera difficile parce que la réforme de l'administration publique n'a pas encore abouti, ça veut dire les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, bien motivés, bien recrutés, bien encadrés, les avancements graves. Il faut une réforme globale de tout ça qui n'a pas eu lieu. Et donc, il faudra encore beaucoup de vigilance parce que le ministre ne sera pas derrière chaque poste frontalier, il n'est pas là. Le ministre ne sera pas à Kassindi, le ministre ne sera pas à Kasumbalesa, le ministre ne sera pas à Boma. Donc, il donne une vision, mais encore une fois, c'est la structure qui doit prendre ses décisions qui est faible. Bref, et il faut absolument aller vite dans toutes les réformes pour que toutes les décisions de ministre soient effectives.
Alors, monsieur le ministre, vous avez suivi les interventions des uns des autres et même des auditeurs, la crainte et l'application même de la décision que vous venez de prendre. Israël Moutala a soulevé la question de la faiblesse de l'administration. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est un fait réel, la faiblesse de l'administration. Mais comme vous le savez, le poisson commence à pourrir par la tête. Et je crois que s'il y a une impulsion, comme c'est le cas, à partir des dirigeants, à partir des ministères, les administrations n'auront qu'à se mettre au pas. Il est évident que nous mettons en garde ici les différentes administrations, que ce soit la douane, que ce soit les autres intervenants, pour que cette mesure ne puisse souffrir d'aucune exception et d'aucune fraude.
Merci.
Comme vous le savez également...
Vous allez devoir conclure, monsieur le ministre, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je vais conclure en disant que je crois fermement à la bonne application de cette mesure. Et comme vous le savez, nous nous sommes basés sur le dialogue. Avant de prendre toutes ces mesures, nous avons tenu des réunions avec les professionnels concernés. Ça a été le cas pour la baisse des tarifs de transport aérien, donc des billets d'avion. Ça a été la même chose pour les prix des carburants et c'est le cas pour le ciment.
Merci, donc, monsieur le ministre.
Je termine rapidement en disant que parfois on parle du petit commerce, ce n'est plus du ressort du gouvernement central. Selon la nouvelle réglementation, ce sont les provinces qui doivent y veiller.
Merci, monsieur le ministre. Honorable Pouella, en un mot, pour conclure.
Pour conclure, nous encourageons, parce qu'on aime dire que les opposants ne voient que ce qui est noir. Nous avons déploré ce qui s'est passé. Les gouvernements s'est ressaisi. Il importe qu'on prenne les mesures nécessaires pour créer l'équilibre et privilégier les opérateurs nationaux pour l'émergence d'une classe moyenne, mais aussi demander qu'on ne puisse pas asphyxier les commerces qui se passent à Loukou.
Merci, honorable Fela, je suis désolé. Israël Moussala, conclusion.
Ma conclusion, c'est que le ciment, c'est un produit stratégique, un produit de grande consommation. On doit veiller à ce que le marché ne soit pas en rupture de stock et que le prix soit accessible pour tous les Congolais, qu'on arrive à moyen terme à 10 ou à 12 dollars le sac de 50 kilos.
Merci, c'est la fin de cette émission. Le dialogue entre Congolais présente ses condoléances à la famille du pasteur Henri Senga Kalombola, décédé hier à Kinshasa. Henri Senga fut de son vivant l'un des invités de dialogue entre Congolais. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.